Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Déclic, nom masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience, ou les deux.
Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Productions, et vous écoutez Le Déclic. Aujourd'hui, c'est à nouveau Lucie Cosmala que nous recevons. Comme Lucie est un véritable caméléon, nous avons décidé de lui consacrer deux épisodes du Déclic. Après nous avoir parlé de son parcours pour devenir journaliste de littérature jeunesse, elle nous dévoile aujourd'hui comment elle est devenue DJ. Encore aujourd'hui, je retrouve Lucie Cosmala pour son second déclic. Alors pour ceux qui n'auraient pas écouté, sachez que Lucie Cosmala a fait un déclic précédent dans lequel elle est revenue sur son parcours professionnel, dans lequel elle nous explique comment elle est venue à faire de la littérature jeunesse son métier, que ce soit en tant que journaliste ou en attachée de presse, etc., ou dans la communication. Mais comme tu le disais dans le déclic de la semaine dernière ou il y a deux semaines, encore une fois, nous ne savons pas quel est le calendrier des podcasts, je ne sais pas moi-même, je le déciderai toute seule.
Pas le temps, Juliette.
Alors, nous déciderons avec Sophie, mais vous savez, avec Sophie, nous sommes pareil que Lucie, nous sommes très libres. Donc, on fait en fonction
c'est
de.
C'est pour ça qu'on s'entend bien.
On fait en fonction de ce qui nous tombe dans le bec en termes d'invités. Donc, ça dépendra de ce qu'on fait. Bref, voilà, je vais continuer pendant une heure. Et donc, en fait, Lucie, tu nous expliquais dans le précédent podcast que tu avais une vie de jour et de nuit et que de nuit, tu étais comme Batman, mais Batman version tough et musique. Tu te transformais en DJ.
Exactement.
Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce déclic que tu as eu de te former au DJing?
Incroyable, incroyable, j'adore. Tu sais, souvent on dit, qu'est-ce que tu dirais à la toi de 16 ans aujourd'hui? Moi, je lui dirais, t'es pas prête, t'es tellement pas prête.
Et d'ailleurs, celui qui t'a formé, donc qui est Sylvain Thavenot.
Alors, c'est Romain qui m'a formé, mais c'est effectivement, Romain. Tous les deux qui...
Excuse-moi Romain, c'est Romain et Sylvain qui t'ont formé. Sylvain, que vous avez déjà entendu dans le déclic et dans la chanson, qui t'a d'ailleurs trouvé l'un des meilleurs noms de DJ, qui est DJ Cosmique.
Oui.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce déclic de former au DJing? Comment c'est arrivé? Dans quel contexte? Est-ce que tu étais déjà une fan de musique toi-même?
Alors oui, j'ai toujours, la musique, ça a toujours été un truc hyper important pour moi. Bon, ça fait super cliché de le dire comme ça, mais c'est vrai que j'ai la musique... J'ai compris il n'y a pas très très longtemps, en découvrant que j'étais en fait hypersensible, que oui, j'avais un rapport très très puissant à la musique et que ça a toujours jalonné en fait ma vie. Et je rattache souvent des musiques à des moments de ma vie et la musique a toujours été déterminante dans mes émotions, tu vois.
Okay.
Quand j'écoute une musique joyeuse, je suis joyeuse. Quand
D'accord.
j'écoute une musique mélancolique, je suis mélancolique. Enfin, il se passe vraiment quelque chose, quoi. Je me rappelle d'ailleurs, pour une petite anecdote, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais une fois j'étais dans le Transilien pour aller à Paris et j'écoutais de la musique et il y avait quelqu'un en face de moi qui me regardait. Donc j'étais bon, qui c'est ce relou là qui est en train de me regarder? Bon bref, je faisais pas trop attention. Et au moment où je descends du train, il me fait « Ah excusez-moi, je suis étudiant en musicologie et je vous regardais écouter votre musique ». Qu'est-ce que ça vous fait? Parce que je vois que vraiment ça vous fait quelque chose, quoi. Vous êtes complètement absorbé par la musique que vous écoutez. Moi, j'étais OK. je sais pas. Oui, c'est vrai. C'est puissant. Oui, c'est vrai. Donc bon, bref, la musique, c'est important. J'ai toujours beaucoup aimé aller à des concerts, aller à des festivals. Pendant un court temps, j'ai écrit quelques articles de musique pour un site qui avait été créé par quelqu'un qui était de mon lycée, qui D'accord. cherchait à faire un petit média, bon, qui n'avait pas marché, mais voilà. C'est toujours un truc qui m'a intéressée. J'avais postulé pour un truc qui s'appelait le job le plus cool du monde, qui était organisé par la Société Générale.
C'est un truc, ça, ouais.
Qui consistait à aller sur des festivals pour écrire des articles sur les festivals et tout. Ouais. J'avais été présélectionnée.
Ah,
alors, j'avais pas été choisie, mais j'avais été présélectionnée quand même. J'avais fait le casting, si on peut dire, en tout cas l'entretien, etc., pour faire ce truc. Donc ouais, j'ai toujours eu envie de faire quelque chose en lien avec la musique. D'ailleurs, c'est là que j'avais rencontré, une petite anecdote, mais le photographe Bobby, qui est aujourd'hui photographe Big Flo et Oli et tout. Bah, nous, on se connaît depuis cette époque-là.
D'accord,
quoi.
C'est marrant.
C'est marrant, ouais. Bref, donc oui, musique très très importante pour moi. Concert, etc. Bon, après, quel est le lien avec le DJing ? Mademoiselle. Donc j'ai travaillé pour le site mademoiselle.com et la particularité de Mademoiselle, c'est que c'était un site très, c'est d'ailleurs, un site qui place sa communauté vraiment au centre de, enfin son lectorat au centre de ses activités, donc à la fois pour les articles, mais qui organisait aussi tout un tas d'événements à destination des lectrices et lecteurs. Et parmi ces événements, il y avait les gros stuff. Donc les gros stuff qui étaient des
comme leur nom l'indique.
Des gros stuff, des grosses fêtes organisées principalement à la Bellevilloise.
Terre-terre, c'est côté de chez moi.
Voilà.
De mon ancien chez moi.
Souvenir.
Ouais, exactement.
Et donc, il y était des soirées, donc mi-karaoké, mi-dance floor, de 23h à 5h du matin. Voilà, assez régulièrement, à peu près tous les deux mois, je crois, deux ou trois mois. Du coup, quand j'ai intégré Mademoiselle, j'ai commencé à aller au gros stuff. Il faut savoir que c'est un peu les premières fois où je sortais, en fait. Moi, je suis jamais allée en boîte, en dehors des gros stuff. Et aujourd'hui, des soirées que je fais, je n'étais jamais allée en boîte. Donc, je ne savais pas ce que c'était, finalement.
Je ne connaissais pas ce monde-là, ouais.
Pas du tout. Et donc, j'étais un petit peu... Bon, je dis, bon, bah, je vais voir, ça a l'air marrant. Il y a un karaoké, j'aime bien chanter du Céline Dion. Ok, c'est parti, quoi. Et en fait... Le démon de la danse s'est emparé de moi.
Révélation
énorme où en fait je me suis dit mais c'est trop bien de danser toute la nuit sur des sons qui te font plaisir quoi. C'est-à-dire que moi je me retrouvais à danser tout le temps, à dire allez c'est bon je vais me reposer. Oh non mon dieu mais j'aime trop cette chanson, elle m'appelle, il faut que je retourne danser, etc. Enfin waouh, j'ai commencé à me dire ok je suis en train de tomber dans une addiction là, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Ce qui fait que du coup, donc comme Sylvain a dû te le raconter dans le déclic, donc il y avait les gros stuff pour lesquels ils mixaient, etc. Mais ils avaient aussi leur soirée We Are the 90s chronologique à la machine du Moulin Rouge. Donc moi j'ai commencé à aller à toutes les soirées, toutes les We Are the 90s, toutes les chronologiques, pour retrouver...
Tu savais que ce genre de musique allait passer, etc.
Ouais, complètement. Moi c'est ma came, tout ce qui est... populaire, culture populaire, mais...
Années 80, 90...
Tout, même années 70, 2000, enfin ouais. Franchement, c'est... Je pense avoir une bonne petite culture musicale et être réceptive à beaucoup de choses. Donc ça me parlait vraiment beaucoup et moi je ne savais pas en fait que ça pouvait être ça aussi, les boîtes et le monde de la nuit. Donc j'étais ok, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc j'ai commencé à faire toutes les soirées, tout le temps. Et puis j'ai commencé à me dire, punaise, c'est fou le pouvoir qu'ils ont sur les gens en fait. C'est fou ce côté, waouh, tu passes un titre et en fait ça rend les gens trop heureux. Et enfin moi c'est un truc qui m'appelait quoi. Je me dis, j'ai envie de savoir aussi comment ça se passe. Tu vois, j'étais très intriguée par ces espèces de boutons, par ces espèces de trucs, voilà, que tu tournes et ça fait un effet. Et puis là t'appuies là, puis ça lance un titre, etc. Puis là tu peux couper le son sur la tribu de Dana pour que les gens ils chantent dans la vallée haute de Dana. J'étais ok, ça m'intrigue, quoi. Donc, je me rappelle d'une fois où, en pleine soirée, j'étais un peu rébou. Je fais à Sylvain, « Ouais, tu peux m'expliquer comment tu fais, machin ?» Il fait, « Alors là, tu vois, c'est les BPM et tout. » Puis là, il a lancé Gala. J'ai fait, « Désolé, il faut que j'aille danser, parce qu'en fait, c'est Gala. » Donc, tu vois, je commençais à avoir un peu envie de... Un peu de envie toucher, de savoir, comment
c'est
ça se passe.
Tu commençais à être curieuse, quoi. Ouais.
Vraiment très, 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 très curieuse, quoi. Mais sans plus. Et puis après, donc Too Bad Production, donc les DJ Too Bad Production commençaient à se dire bon en vrai les gros stuff ça ne rapporte pas forcément beaucoup d'argent, etc. Et il y avait cette envie de se dire bah pourquoi pas former en fait des DJ pour que ce soit les rédactrices qui mixent pour les soirées. Et donc c'est une idée qui commençait à émerger. Et je me rappelle d'une grosse stuff où qui avait lieu non pas à la Bellevilloise mais sur une péniche, le Flow je crois.
Il y avait le Flow, il y avait aussi la péniche de la Concrète. Mais c'était plus l'été la péniche de la Concrète.
Ouais, je crois que c'était. Mais là c'était une grosse stuff. La Concrète c'était.
C'était l'été. Ah ouais mais non.
C'était les We Are.
C'était les We Are, pardon, je confonds.
Je crois pas que c'était pas. C'était pas le bateau. Bon, je sais plus. Bref. En tout cas, il me semble que c'était au Flow. Il y a eu une grosse stuff où, exceptionnellement, donc, Too Bad Production ne pouvait pas mixer. Mm-hmm. Et donc à l'époque, Marie, qui était chargée événementielle des grosses stuff, avait sollicité deux nanas DJ pour faire la soirée, quoi. Et les nanas, elles arrivent et, en fait, elles se retrouvent à mixer que du R&B. Que ça. Ce qui est cool, moi, j'aime beaucoup le R&B. Mais
voilà. Un peu redondant pour toute une soirée.
Ouais, c'était un peu redondant. Et puis moi j'étais ah c'est dommage parce que on pourrait passer ça pendant une grosse teuf, on pourrait passer ça, on pourrait passer ça. Et surtout je me suis dit bon en vrai ce qu'elles font, ça a pas l'air non plus hyper compliqué. Mmh. Et pourtant bah voilà elles ont été bookées sur cette grosse teuf. Et donc ça a un peu acté le fait que on se disait mais pourquoi pas nous en fait. Pourquoi pas nous. Et du coup, c'est à ce moment-là que a été vraiment initié le côté formation. Ok, c'est parti. Fabrice était hyper chaud pour que ça soit des rédactrices qui mixent au gros stuff.
Donc, Fabrice, l'ancien patron de Mademoiselle, je voilà, pense, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas.
Voilà, Fabrice Florent, donc fondateur et ancien patron de Mademoiselle. Et donc, voilà, il y a eu un accord avec donc, les DJ de Toubaigne pour dire, ok, bah voilà, on a trois rédactrices. Enfin, donc, il y avait Dorothée qui était chargée des vidéos à l'époque, Louise, chargée des podcasts, et moi, on était, ok, en fait, on a envie de le faire parce que toutes les trois on avait une affinité très très forte pour la musique. Mmh. Bon, en plus c'est l'époque où j'étais rédactrice musique pour Mademoiselle. Louise aussi était très très active sur cette rubrique là. Mmh. Dorothée elle gérait pas mal avec moi les sessions acoustiques. Ouais. Donc on était vraiment les trois piliers de la musique chez Mademoiselle, et en plus on était toutes les trois très 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 attirées par ça. Donc on a commencé notre formation de DJ avec Romain, donc un des DJ de Toubaigne. Formation qui pour moi était assez intense parce que j'aime pas l'échec, j'aime pas ne pas réussir. J'avais pas mal de difficultés au début. Ouais. J'avais beaucoup de mal à être en difficulté face à d'autres personnes.
Oui.
Parce que d'habitude, quand j'apprends quelque chose de nouveau, en général, je suis toute seule chez moi.
Oui, et puis c'est pas facile de se mettre à réapprendre quelque chose de complètement différent à 25 ans et du coup d'avoir l'espèce de cours, entre guillemets.
C'est ça. Et puis, t'as tes collègues qui gèrent un petit peu mieux que toi. Ouais, donc tu dis, ah là là, je suis une merde et tout, moi j'y arrive pas et tout. Mmh. Donc c'était assez dur pour moi. Même si, voilà, beaucoup de détermination et j'étais aussi très très encouragée par mes collègues et par Romain. Donc c'était aussi détends-toi, Lucie. Enfin, moi, je suis très ça perfectionniste, venir, ouais. Donc j'ai aussi envie que ça soit bien tout de suite.
Oui, c'est vrai que ce soit parfait tout de suite.
Mmh. Exactement. Donc voilà. Grosse formation avec cette échéance. En vrai, on avait une échéance très concrète. Hein. On savait qu'on avait...
Oui, il y avait quand même une date butoir, quoi.
Exactement. On avait 2-3 mois pour apprendre à mixer. Et on savait que notre première soirée, c'était à la Bellevilloise, qui est quand même une jauge.
Le
qui a
caca
une jauge,
dans le slip.
Autour de 1000 personnes. Je crois qu'on est à 900 000 personnes.
Donc, 900 personnes.
Je crois que c'est 900, ouais.
Parce que t'as dit 900 000, ça fait
beaucoup. Non, 900 000, c'est que ça fait quand même pas mal. 900/1000 personnes.
T'as 900 000. Ah oui, pardon, c'est moi qui n'avais pas compris. Pardon, j'étais en mode, bah, disons, 900 000, je n'avais pas la belle lune si grand.
Tu connais pas, tu savais pas. Il y a plein d'étages, il y a pas mal de sous-sols à la belle lune. Il y a même un moment, il y a une scène au-dessus du magma, tu vois. Non. Donc on avait cette échéance quand même qui était à la fois une pression mais aussi très très stimulant et une chance inouïe de dire attends, combien de DJ font ça depuis des années et n'ont pas accès à des salles comme la Bellevilloise.
Ah bah c'est clair.
On était des privilégiés donc voilà.
Et généralement quand tu débutes c'est plutôt la salle des fêtes de Conflans Sainte-Honorine quoi. C'est...
Ouais ou un bar où personne ne t'écoute. Ou,
oui c'est ça. Tu les vois ils ont juste les pauvres DJ tu les vois ils ont une petite console et puis deux petites enceintes aux limites c'est une enceinte Bose et puis
c'est ça. Puis t'as trois pecnos qui vont dire hey, tu peux passer les Spice Girls parce que c'est l'anniversaire de ma pote là-bas et elle aime trop ça. Voilà c'est ça aussi la vie de DJ. Donc ouais on est vraiment rentré par la grande porte et qui plus est par la suite à la machine, mais en tout cas voilà, pour en revenir à la Bellevilloise, donc on avait cette échéance de la Bellevilloise et bon bah on a bossé mais vraiment énormément, tout le temps on s'entraînait tout le temps après le taf, on restait tard, on était souvent à plusieurs, enfin c'était vraiment beaucoup de boulot, mais toutes les trois on était un peu dans la même optique, tu vois, je pense qu'on se tirait vraiment vers le haut toutes les trois.
Ce que j'allais dire, c'était peut-être bien aussi d'être à trois à ce moment-là, tu vois, c'était peut-être un peu gênant au début quand t'arrivais moins à faire tes transitions, des trucs comme ça, mais je pense qu'in fine c'était pas mal d'être à trois parce que vous permettez de vous soutenir.
Ouais. Puis on était toutes les trois dans le même bateau, de se dire oh là là mon dieu, mais
de se comprendre l'une l'autre et se dire bon bah si on est chaud on est joué ensemble quoi.
C'est ça exactement. Donc voilà et on se retrouve à mixer pour la première fois donc quelques mois après, je me souviens de cette soirée. En plus c'était...
T'anticipes toutes mes questions, c'est génial, j'ai rien à dire.
Je suis très bavarde. Qu'est-ce que tu veux ?
Non mais c'est parfait parce que tu fais tout le déroulé toute seule. Du coup, alors, quel a été ton ressenti la première fois que t'as mixé?
C'était, je me souviens bien de cette soirée, parce que tu sais, sur Mademoiselle, t'as un petit peu des moments où t'es un peu plus mis en valeur sur le site, tu vois. Et moi, c'était le moment où j'étais une des têtes de Mademoiselle, où j'étais très, très identifiée sur le site. Et je me rappelle qu'on m'avait demandé si je pouvais, moi, lancer la soirée, ouvrir la grosse stuff. Donc, je me rappelle, j'avais pris mon micro, je me dis « Bonsoir Paris !» et tout, comment ça va? J'ai lancé le karaoké, je leur ai dit « Bon, et à partir de 1h du matin,
on se retrouve en bas,
c'est notre premier DJ set, voilà, j'espère que vous serez là. »
Je me chie dessus.
On est un peu stressé et tout, et tout le monde avait été trop gentil, on a eu une espèce d'ovation en mode « Allez, ça va aller !» Enfin, je suis assez émue de repenser à tout ça. Et donc, ouais, on était très, 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 très stressés, mais très excités aussi. Et on a eu des problèmes techniques, mais de ouf, aussi, ce soir-là, je me rappelle.
C'est sûr, comme ça.
Il y a un moment où on pouvait plus passer de musique.
Yes.
Heureusement, Romain était là et avait pu nous aider à gérer tout ça. Heureusement que nous avions un homme parmi nous pour pouvoir nous aider.
Bah, on est peu de choses, hein, nous.
Ah là là, petite femme fragile. Non, mais bon, plus c'était là. La première fois.
C'est le côté technique. Hein,
exactement, vu que c'était la première fois, on ne maîtrisait pas encore tous les enjeux techniques de tout ça. Donc,
Ah, c'est ça, c'est qu'entre t'entraîner dans un bureau, etc., machin, et pouvoir faire avec toutes les installations électriques de la Bellevilloise, toutes les enceintes, les raccords, les machins, etc.
Bah, c'est ça qui est impressionnant avec ce métier, c'est que en fait, les gens, quand tu dis que t'es DJ, ils se disent tu passes des titres. Et t'as quand même t'as une réflexion, c'est pas n'importe quoi des DJs. T'as une soirée à tenir, t'as des gens à faire rester la soirée.
C'est ça.
Donc c'est quand même une gestion de l'énergie aussi de la salle tout au long d'une soirée.
Oui, puis s'adapter effectivement en fonction de l'heure, en fonction de l'énergie.
Exactement. En fait, pour moi, il y a plusieurs choses. Être DJ, c'est plusieurs compétences. C'est donc maintenir ton public et lui permettre aussi. De temps en temps, de souffler, d'aller pisser, d'aller reprendre un verre pour repartir de plus belle. T'as bien sûr le côté transition, mais pour moi, tu vois, on va dire qu'à 70%, ton choix de chanson est important. À 30%, tes transitions, ta technique est importante. Enfin, moi, c'est ma vision. Je pense que d'autres DJ ne sont pas du tout dans cette optique-là. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais t'as aussi, bien sûr, tout l'aspect installation, technique, faire les balances, le relationnel avec le régisseur, dire « Salut poteau, comment ça va ?» Enfin, tu vois, c'est aussi, mine de rien, le DJing, c'est aussi du relationnel. Donc, c'est tout un tas de choses que t'apprends au fur et à mesure. C'est vrai que pour cette première soirée, on n'était pas encore tout à fait au point pour pouvoir gérer toute cette dimension technique, régie, etc. Donc, heureusement qu'il était là. Mais la soirée s'est très 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 bien passée, hormis ce souci technique, les gens sont restés jusqu'au bout, on avait des gens jusqu'au bout, et ça a été que du kiff, et ça a été le début d'une épopée mais incroyable de DJing, qui nous a très vite ouvert les portes de la machine du Moulin Rouge. Donc quand je te dis qu'on est quand même passé par les grandes portes très très vite, je mesure vraiment, mais vraiment je pèse chaque gramme de la chance qu'on a eue. Parce que voilà, on a appris à mixer pour les gros stuff, on a commencé à mixer pour les gros stuff, mais assez rapidement. Donc, Too Bad Production nous a dit « Bon, bah du coup, on vous a formé. Donc maintenant, on sait que vous savez mixer. » En plus, moi, je venais tout le temps aux soirées.
Oui.
Je continuais à venir tout le temps. Donc, je connaissais très bien aussi les soirées.
Oui, donc tu pouvais très bien faire un set d'une heure. Ça...
En fait, je connaissais les titres. Ouais. Je savais... Oui, je savais...
Tu connaissais l'énergie de la salle. Tu connaissais ce que les gens attendaient.
Donc, ils ont dit « Est-ce que ça vous dit, en fait ? Est-ce que ça vous dit de nous rejoindre ?» Et en plus, eux, ils commençaient à être en équipe réduite pour les DJs. Ce qui fait que quand un DJ était absent, t'en avais un seul qui devait se mettre à gérer 6 heures de soirée. Ce qui est faisable, mais pour aller pisser, c'est un peu compliqué.
Ouais.
Tu lances un petit Bohemian Rhapsody, tu pars faire pipi en vitesse et tu reviens.
Et puis tu profites pas vraiment de ta soirée non plus, quoi.
C'est un peu... parfois, tu as un petit peu besoin aussi de prendre une petite pause. Donc pour eux aussi, ça les intéressait d'avoir une équipe un petit peu plus large. Donc rapidement, ils nous ont dit, si ça vous dit, venez mixer au chronologique. Au début, c'était les chronologiques. Donc ils sont ces soirées par décennie.
Ouais.
À chaque heure, en fait, on change de décennie en partant des années 50 jusqu'aux années 2010, au petit matin. Donc voilà, on s'est aussi retrouvés très rapidement à mixer à la machine du Moulin Rouge, qui pareil, là on est à une jauge de 2000 personnes, je crois, un truc comme ça, dans une salle qui est somptueuse, mixée à des soirées qui existent depuis plusieurs années.
Et puis quand le Covid n'était pas là, qui était bondé. J'en ai fait beaucoup aussi, parce qu'on a... Vous voyez, en connaissant Elie Dieu, on a nos petits papiers, on a nos petites entrées. Hein, je regarde mes ongles comme une connasse. on a nos petites entrées, donc je connais bien, effectivement. Mm. Et c'est vrai que ce sont des soirées, mais qui sont remplies de chez remplies, quoi.
Ouais, et qui sont des décharges d'énergie ouais. exceptionnelles, quoi. Quand tu...
Moi, je les voyais en tant que spectatrice, puisque nous, on avait l'avantage d'être recherchés à danser, ou en coulisses, mais effectivement, j'imagine pas ce que c'est en tant que professionnel, en tant que DJ, quoi.
Je crois que c'est indescriptible, et je pense que c'est une addiction absolue que j'ai, de la même manière que je suis très addict au sucre. Je pense que je suis très addict à l'énergie des gens, et je suis addict à cette sensation où... tu vas lancer un gala, tu vas lancer une samba de Janeiro, et en fait les gens c'est comme quand tu mets de l'eau à bouillir sur ta plaque, quoi. D'un coup ouais. t'as les bulles et, pff, ouais. et d'un coup ça part en c'est une folie. Et moi, ça me... T'as beau passer samba de Janeiro à chaque set, t'as beau te dire oh, allez encore la samba de Janeiro, mais en fait ça fait tellement toujours le même effet aux gens.
Ouais.
Et moi je n'arrive pas à me lasser de ces gens qui crient, de ces gens qui sautent, de ces gens qui sont heureux, de ces gens où tu dis ok, là je suis en train de leur faire relâcher la pression. Ils ont peut-être eu une semaine de merde et là ils sont juste là pour kiffer. Et cette sensation, mais elle est indescriptible, mais elle est tellement puissante, quoi. C'est un des trucs les plus un des moteurs de ma vie les plus importants. Et non seulement voilà, j'ai eu la chance de faire ça à la machine, mais j'ai eu la chance de faire ça à Solidays aussi.
Oui,
avec
exact.
Là, on arrive au moins à 4000 personnes. Et là, c'est quoi ma vie de rendre fou des gens, autant de gens. Avec le titre des autres, c'est ça qui est très pratique, même pas besoin de créer tes propres sons, t'as juste à prendre le meilleur de chaque. Très bon bail, très très bon bail. Mais c'est... Je comprends pas ma vie, tu vois, j'ai l'impression d'être en pilotage automatique. On me dit, hey, Lucie, tu veux...
Ouais.
On a cette opportunité de mixer à Solidays. Ok. bon, go, je me chie dessus, mais je vais le faire, en fait. Je sais pas pourquoi, je repousse un peu mes limites de ma timidité. Hop,
ça paraît naturel, quoi, donc...
Alors que, en fait, vraiment, moi, je suis quelqu'un de très timide, quand même, à la base... Mais non, vas-y, go faire ce que
j'ai. Justement, ça a dû te sortir un petit peu de ta timidité, ça a dû te changer un petit peu.
Je sais pas, parce que je suis toujours un peu timide au moment où je prends les platines. J'ai toujours la main qui tremblote un petit peu dans les premiers moments. Surtout à Solidays, t'as beaucoup la main qui tremblote. En plus, les sets que j'ai
c'est
fait
bien
là-bas.
Pour graffer.
Pour scratcher. Je ne scratche pas, malheureusement. Mais je me rappelle le dernier Solidays qu'on a fait, donc c'était en 2019. C'est moi qui avais ouvert la première soirée, c'est moi qui avais fait la première entrée, on va dire, musicale. Donc c'est moi qui avais la responsabilité de lancer la soirée. Mais quelle satisfaction au début de cette. T'as une dizaine de personnes devant toi qui sont intriguées parce qu'ils voient des flamants roses gonflables sur la scène. Ils se disent qu'est-ce que c'est que ça? Puis tu commences à lancer la musique. Tu regardes ton ordi, tu lèves la tête, tu fais ah, il y a genre maintenant 100 personnes. Tu regardes ton truc, tu lèves la tête, tu fais ah là, il y en a bien 500. Puis tu vois, et puis en fait, là, tu vois que t'as du monde partout sous le chapiteau, parce qu'on était quand même sous un des chapiteaux de Solidays. Et tu vois que t'en as sous le chapiteau, tu les vois au loin, en dehors du chapiteau. Tu fais mais qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Et tu dis ok, je crois que j'ai bien fait mon travail, parce qu'ils sont là, ils sont contents, ils chantent, ils restent. À la fin, ils font une autre. Ils t'ovationnent comme si t'étais Madonna. Tu te mets à chialer toutes les larmes de ton corps, parce que c'est beaucoup d'amour, quoi. C'est une énergie qui est presque palpable pour moi, quoi. C'est comme une énorme bouffée
d'amour,
de caresses, de chaleur qui t'envahit, quoi. Et t'es ok, je crois que j'ai rendu des gens heureux, et ça me rend très très heureuse d'avoir fait ça, quoi.
Et une très bonne question que Sophie a ajoutée sur le Google Doc. Oui, on est sponsorisé pour Google Doc, c'est pas vrai. Est-ce que tu te crées un personnage quand t'es sur scène pour éviter un peu le trac, ou pas du tout? Tu disais que toi, t'es quelqu'un de très timide. Mmh. Est-ce que du coup, pour contourner un petit peu cette timidité, tu te crées un espèce de... tu deviens DJ cosmique
Non, parce que... en fait, moi...
ça me fait rire, DJ cosmique. Moi, je sais pas.
Je pense que je vais vraiment finir par adopter ce blase.
Je t'en supplie, mais je comprends pas pourquoi c'est pas déjà fait. À ta place, moi je m'appelle Jules Cadeau, je peux pas avoir de nom comme ça. Tu t'appelles Cosma, DJ Cosmique, c'est génial. Meuf, moi à ta place, j'aurais fait floquer des putains de vestes en jean avec des paillettes, avec des sequins, avec des trucs, avec des franges.
Ok, je vais t'embaucher pour le merch, Juliette.
Mais non, mais tu vois, moi je vois, genre tu vois une petite fusée, une petite roquette qui part comme ça, tu vois, une petite supernova et tout, DJ Cosmic, quoi.
Ah, ça me plaît, ça me plaît. Ta direction artistique me plaît
beaucoup.
Je
t'envoie la facture dans deux semaines. Je t'envoie un petit devis et puis on verra avec la facture plus tard.
On va ça toutes les deux. Non, parce que, en fait, moi, c'est ça aussi. Je pense qu'il y a plusieurs types de DJ. Et c'est vrai que moi, j'ai pas le sentiment d'exister par moi-même quand je, tu vois, effectivement, moi je vois un peu les autres DJ qui se créent justement des blazes, etc., qui se mettent un peu en avant, etc. Moi j'ai plutôt la sensation d'exister à travers la musique. En plus, tu vois,
c'est pas ta musique,
Ouais, et puis moi en plus, j'aime beaucoup le généraliste, enfin, je suis très culture populaire, etc. Je vais pas aller chercher des sons inconnus, etc. Moi c'est pas ma façon de faire la fête, en fait. Même si je peux beaucoup apprécier, voilà, si y a un DJ qui va passer des trucs disco funk toute la soirée, des trucs que je connais pas, je vais être sur Shazam toute la soirée en me disant c'est trop bien. Mais moi j'aspire pas trop à, tu vois, à être bookée dans des festivals en tant que DJ parce que j'ai un style musical underground, machin. C'est pas du tout ce qui m'intéresse. Moi je veux juste que les gens soient contents. Je veux juste permettre aux gens de ne plus avoir de voix à la fin de la soirée parce qu'ils ont trop chanté sur Amel Bent, tu vois. Moi, c'est ça mon objectif. Ce qui fait que je vais pas trop me créer de personnages. Et après, par rapport au fait d'être un peu timide, mine de rien, bon, même si à la machine, on est en hauteur, enfin, la machine du Moulin Rouge, il y a quand même une scène.
Oui, la scène est très haute,
Sauf à la Chaufferie, où on est, on est en bas et on est à la hauteur des gens. 36-15 aussi, on est très, très proche des gens. Mais on est toujours dans un coin, tu vois. On est plutôt dans l'ombre. On n'a pas, genre, on n'est pas David Guetta, quoi. On n'a pas les spotlights sur nous. Bon, à Solidize, par contre, on les a sur nous. Ouais. Mais mine de rien, t'es plutôt dans l'obscurité.
D'accord,
on te voit pas trop.
Oui, c'est vrai,
Donc oui, toi tu peux être comme ça derrière tes platines, mais t'as quelques eye contact avec les gens, et encore plus effectivement quand tu t'es dans un bar, voilà, en 36-15, donc c'était un bar qui existait rue Oberkampf, maintenant qui n'existe plus malheureusement. Mais oui, t'avais une proximité avec les gens, ce qui fait que les gens ils se retournaient vers toi, ils disaient « Ah, c'est cool !» Ça c'était très sympa. C'est vrai qu'on n'avait pas cette proximité à la machine qu'on avait au 36-15, où on pouvait vraiment être avec les gens, pour le meilleur comme pour le pire, mais quand même pas mal pour le meilleur. Mais ouais, en fait, les gens ils t'entendent, enfin ils entendent ce que tu fais, mais ils te voient pas vraiment, ils savent pas vraiment où t'es. Donc moi ça m'empêche pas de mettre des combis shorts à paillettes parce que je kiffe, parce que ça me fait plaisir, et je pense que ça me donne aussi une forme de confiance en moi. Mais non, je pense que je me crée pas forcément de personnage, et j'ai pas forcément envie d'exister en tant que DJ, quoi, en tant que... Je vais pas me faire un compte Instagram, moi, désolé Juliette. Je vais pas me faire un compte Instagram DJ Cosmic où je vais poster des photos de moi aux soirées.
Parce que t'as pas reçu mon devis, encore.
C'est peut-être pour ça. Donc, je mesure pas encore tout l'intérêt
la puissance de la tout com. Ça.
Exactement.
Et du coup, on en parlait un tout petit peu, mais évidemment, on sait très bien que les boîtes de nuit sont fermées depuis un an. Et là, on a commencé à avoir les annonces de déconfinement. Et comme le disaient les patrons des boîtes de nuit, les boîtes de nuit sont les grandes oubliées, en fait, de ce déconfinement. Est-ce que tu comptes, est-ce que vous en avez déjà parlé avec les gars de Toubang, de reprendre quand vous pourrez?
Ouais, alors nous, on a quand même eu la chance de faire des soirées l'été dernier, parce que on pouvait faire des soirées en extérieur.
Ouais.
Et on a notamment pu mixer sur une péniche à Paris qui faisait le tour de la scène, la Rivers King, je crois qu'elle s'appelle. Ça, c'était fou.
J'ai pas pu y participer, mais ça avait l'air trop bien.
Et ça, c'est incroyable, tu mixes au pied de la Tour Eiffel, quoi. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Donc, on a quand même pu avoir des petites opportunités comme ça, et j'espère que cet été, on va pouvoir avoir d'autres opportunités.
Normalement, le couvre-feu se lève le 30 juin. Donc, je pense que sur les trucs en plein air, ça devrait le faire.
J'ai l'espoir, en tout cas, qu'effectivement, on puisse retourner mixer au moins en plein air. Et oui, dès que ça sera possible, évidemment qu'on va recommencer à mixer. Il y a quand même... on a enregistré des sets. Le premier a été diffusé sur Twitch vendredi dernier.
Ouais, j'ai vu.
Sur un compte qui s'appelle Viens la fête. Donc le Twitch Viens la fête. Il y a une We Are the 90s qui a été enregistrée et diffusée dessus vendredi. Là, donc, ça sera déjà passé, je pense, au moment où le podcast sera publié. Mais donc, vendredi qui arrive, il y a une chronologie qui va aussi être mise en ligne.
Nous sommes le 4 mai, donc ce sera le vendredi 7.
C'est ça. Là, j'ai mixé, donc on verra sautiller sur place toute seule sur la musique que je passe. Donc, on essaye quand même d'avoir des petites initiatives comme ça pour continuer à faire vivre la fête. Ça nous fait un peu de bien, en même temps, ça nous fait du mal. Moi, j'ai beaucoup pleuré quand je suis venue mixer. En plus, on est allé à la machine. C'était très bizarre d'aller à la machine vide comme ça, en plein après-midi, et de passer de la musique à fond et de dire les gens manquent quand
triste,
même. Ça faisait du bien de retoucher un petit peu aux platines, mais
allez, vivement, vivement que tout ça s'arrête, qu'on puisse refaire la fête. Donc ouais, on espère bien sûr pouvoir recommencer le plus tôt possible.
Et est-ce que tu mixes un peu chez toi toute seule en attendant? Est-ce que tu te fais parfois des petits kiffs, des petites playlists?
Alors, je vais pas trop mixer moi-même. En fait, j'ai pas trop le matos chez moi. J'aurais vraiment le matos, des enceintes, des bonnes platines. Je pense que je me ferais des petits kiffs. Mais par contre, oui, je suis très... très du genre à mettre la musique à fond, surtout maintenant dans mon nouvel appart où je peux me permettre de mettre un peu la musique. Ouais, je vais mettre des bons gros sons qui me font plaisir et qui vont résonner dans tout mon appart et danser toute seule dans mon salon. Ouais, ça a toujours fait partie de mes loisirs, donc bien sûr que je le fais. Et parfois, j'avoue, ça m'émeut, quoi. Parfois, ça m'émeut de me dire « Oh là là, cette chanson, je la passais, oh là là, c'était bien. Ah, les bonnes grosses basses, ça me manque de ne pas les entendre à la machine, ce genre de choses. Mais... »
Et enfin, pour finir sur ce déclic bonus, quel est ton préféré des tragédies, Lucie? Parce que toi, on ne l'a pas dit, mais tu es spécialisée S année 2000.
Je suis très année
2000. Dans ton DJing, en fait, comme tu le disais, toi, c'est beaucoup de musique de culture populaire. Tu parlais d'Amel Bent, mais voilà, toi, t'es très spécialisée années 2000. Donc, question non des moindres, quel est ton préféré des tragédies?
Ouais, et j'aime bien parce que je vais te répondre très premier degré à cette question.
C'est ce que j'attendais.
Non, mais en fait, tu vois, donc j'ai une chaîne Twitch et tous les dimanches soir à 20h, j'ai organisé ce qui s'appelle le Star Club Club. Et du coup, pendant le Star Club Club, je lis un fan 2, un Star Club, un super, un salut, donc publié dans les années 2000. Ce qui fait que du coup, Tragédie fait partie des.
Tu les achètes où?
Mais c'est mes vieux. J'ai demandé à mes parents de ne jamais les jeter. Donc,
ils sont tous jetés.
Ça les rend ouf parce qu'ils disent, mais tu sais qu'on a toutes tes revues. Parce que moi, je fais non, ne les jetez pas et tout. Et là, je suis en train de rentabiliser tout ce que j'ai laissé chez mes parents. Donc, j'en ai mis un monticule. Et en plus, ça vaut très cher.
Ah, ça m'étonne pas.
Tu peux les revendre 15 balles. Hein.
Putain, c'est fou.
C'est fou. Je suis assis sur une montagne. D'or. Richesse.
Mais tu sais que, à parté, hier, je sais pas pourquoi je cherche. Ah oui, c'est parce que sur. Il y a un arc Twitter en ce moment de montrer les jouets phares de son enfance. Et du coup, moi, je l'ai fait. Je cherchais évidemment la Game Boy Color parce que j'ai joué à Pokémon à 6 ans sur ma Game Boy Color violette transparente. 99 balles.
Wow.
C'est 99 euros une Game Boy Color.
Je savais que le
rétro gaming, ça marchait, mais alors là, moi j'ai encore, hein, j'ai encore toutes mes vieilles Game Boy. Quoi,
bah ça. Ouais, moi, c'est des trucs que je pourrais jamais revendre. Donc du coup, voilà, je lis des Star Club et du coup, je fais un petit bingo. Hein, voilà. Ouais. On s'est rendu compte. Avec les gens qui me suivent, qu'il y a des choses assez récurrentes dans ces revues, des choses marrantes ou des choses très problématiques. Ouais. Donc, je fais un petit bingo aussi, des trucs problématiques qu'il y a dedans.
Sexistes et compagnie. Ouais.
Exactement. Le dernier.
Homophobe, transphobe, tout ce que tu veux.
Transphobe, pas trop. Ouais, ça parle pas trop de gens transgenres, mais là, récemment, donc dimanche dernier. Tu sais, t'as des rubriques un peu allô docteur,
oui,
etc.
Histoire de cœur.
Exactement. Et là, il y avait une petite gamine de 12 ans qui disait j'ai un sein plus gros que l'autre, que faire? Et on lui a conseillé la chirurgie esthétique. Donc, j'étais très bien.
À 12 ans?
Oui. Notre société a évolué quand même. Ouais. Merci pour ça. Bref, tout ça pour en revenir à la tragédie. Et il n'y a pas très longtemps, en fait, j'ai lu une. Donc, je lis ces revues, c'est vraiment de la lecture à voix haute. Et j'ai lu une interview de tragédie. Et du coup, je peux te dire que mon préféré, c'est Silky Shy. Parce que Silky Shy.
C'est comment déjà les deux?
C'est Tizzy.
Je me dis Tizzy.
Et Silky. Et donc, je peux te dire que je préfère Silky Shy.
Ça me fait penser à la pub Milky et Chalky, quoi.
Parce que, bon, tous les deux, c'est un peu problématique en mode, ouais, moi, j'aime pas les mini-jupes parce que je trouve ça trop vulgaire, j'aime pas... Par contre, j'aime bien quand les femmes s'habillent en moulant, machin, bon, bref, on reste sur des gens... c'est problématique, mais je suis quand même beaucoup plus sensible à la vision de Silky, parce que... Je sais pas, je trouve
qu'il est trop fan d'avoir mis cette question. Je suis trop contente.
Bah écoute, moi j'adore répondre très premier degré à ce genre de questions. Donc tu me poses une question, je te réponds de façon la plus complète possible. Et non, Silky, je le trouve un peu plus rassurant, un peu plus protecteur, et je le trouve un peu plus ouvert d'esprit que Silky. Silky, il est un peu en mode boum boum, il a envie de lever de la meuf. Silky est un peu plus posé. Donc voilà. Ma réponse est Silky Shy.
Eh bien, Silky Shy, on te salue et on te dédicace cet épisode.
Avec plaisir.
Je te remercie beaucoup.
Merci, Lucie. Juliette.
J'invite tous les auditeurs à te suivre évidemment sur Twitch, te suivre sur YouTube, sur Instagram et puis à découvrir aussi ton autre déclic sur la littérature jeunesse. Je te remercie beaucoup. Je te dis à très bientôt.
À très vite, Juliette. Merci.
Salut. Merci d'avoir écouté le déclic de Lucie Cosmala. N'hésitez pas à aller écouter son autre déclic et son épisode de La Chanson pour tout savoir sur elle. Quant à nous, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles et pourquoi pas un gentil commentaire. Pensez aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, @18h17 Productions. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouvel épisode de La Chanson. À très vite!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.